Salut, c'est François de Serial Entrepreneur. Avant de lancer cet épisode, j'ai une annonce spéciale à vous faire. Serial Entrepreneur s'associe à IKEA pour les pros pour vous faire gagner un relooking de vos locaux. Quand on est entrepreneur, il y a une étape qui est symbolique et très souvent importante. C'est celle d'aménager ses premiers locaux. Avec Serial, on a eu les clés de notre premier bureau à Rennes en 2022 et il y a quelques semaines, on a ouvert un nouveau bureau à Paris. IKEA m'a contacté il y a quelques jours pour mettre en avant leur offre et leur concours dédié aux professionnels. Et quand c'est une super offre qui concerne les entrepreneurs, impossible pour moi de dire non. Pour tenter de gagner un relooking de vos locaux professionnels d'une valeur jusqu'à 15 000 euros, c'est gratuit et c'est très simple. Vous devez adhérer au programme de fidélité de IKEA pour les pros, remplir le formulaire d'inscription au concours, le lien est à retrouver en description de l'épisode, et avoir une surface max de 100 mètres carrés à aménager. Peu importe votre secteur ou votre localisation en France, tout ça en ayant un projet dans un délai de moins de 3 mois, oui, ça va vite. A noter que vous ne devez pas avoir des locaux qui nécessitent des travaux de rénovation, ni intégrer un projet de cuisine professionnelle. Ce concours est assez exceptionnel et réservé aux professionnels. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être intéressés par cette offre. Elle est disponible en description. Il s'agit évidemment d'une collaboration commerciale. Merci à IKEA pour leur confiance. Excellente écoute et à très vite.
Vous n'aurez jamais de prêt à la banque. Moi, j'adore quand on me dit, avec ça, tu le feras pas. T'inquiète pas que 2 semaines après, c'était signé et on l'a fait. Les personnes qui te disent, qui te démolissent, non, mais avec ça, vous arriverez à rien et qui te donnent pas de solution, à bannir tout de suite. Hop, ça dégage. 18h, le dimanche, il appelle Margot et dit, mais vous êtes championne du monde, vous avez gagné. L'entrepreneuriat, c'est tellement fait pour moi que quand t'es aligné avec ce que tu fais, forcément, tu vois, t'as une belle énergie. Avant, quand t'es pas bien, quand tu fais des choses où t'es pas à ta place, tu peux pas rayonner, tu peux pas briller. Aujourd'hui, on sort du cadre, on crée des choses. Les personnes, je pense, qui t'ont harcelé, qui m'ont harcelé aussi, encouragées, moi, je réalise mes rêves. Je pense que ma priorité numéro une, avant l'argent, le confort, le tout, c'est de faire quelque chose qui...
Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Chaque entrepreneur possède une histoire unique, a dû prendre des décisions fortes pour réussir et a franchi un cap dans son aventure grâce à des rencontres. Dans ce podcast, j'aime mettre en avant toute la richesse et la diversité de l'entrepreneuriat en France à travers des conversations intimes, authentiques et sans bullshit. Chaque dimanche à 18h, retrouvez un nouvel épisode exclusif. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Marion Gianelli. Salut Marion, comment tu vas ?
Hello, ça va super et toi ?
Super, je suis très content de te recevoir dans le podcast.
Je suis très très contente aussi.
On va avoir l'occasion de parler de ton business, pas que ton business, ton aventure, de comment t'en es arrivé justement à créer la première marque de confiture aux légumes, Made in France. Ouais. Accessoirement, championne du monde de confiture, voilà.
Accessoirement.
donc ça va être hyper intéressant. Ma première question que je pose sur tous les épisodes que tu connais peut-être, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi.
Alors effectivement, j'ai grandi à Mulhouse. Je suis née à Mulhouse en Alsace, pas loin de la Suisse, et on habitait dans la campagne entre Mulhouse et Bâle. Et j'ai vraiment vécu dans un petit élément très cocooning, avec des parents aimants, entrepreneurs aussi. Ils sont photographes meilleurs ouvriers de France, du coup. Wow. Donc, c'est vrai que ça aide.
J'ai toujours eu de très belles photos, en fait.
C'est grâce à eux. Merci, papa. Merci, maman. Et oui, je pense que ça a été vraiment un environnement très cocooning. J'ai fait ma scolarité dans le privé. J'ai une grande sœur qui est bien plus calme que moi. Typiquement, c'était, tu vois, la sœur à pouvoir jouer tranquillement, à faire son petit dessin, son petit truc. Moi, je pouvais pas tenir en place. Donc, en fait, tous les jours, j'avais une autre activité. Je pense que j'ai fait tous les sports possibles et imaginables à part le volley et le foot. Mais... tu vois, j'ai fait longtemps du piano, des années de la guitare, de la flûte. J'ai fait partie d'un orchestre.
T'as tout testé.
Ouais, en fait, je m'ennuyais très, très vite, que ce soit à l'école ou dans les activités. Donc, mes parents, ils étaient toujours obligés de me trouver. Ils n'en pouvaient plus de moi. Ils étaient toujours obligés de me trouver des trucs.
Ça te suivra par la suite parce que je sais que t'as fait beaucoup d'expériences différentes. Je sais que t'as testé beaucoup de choses.
Ouais, c'est ma vie. C'est un test. Ma vie est un test.
Donc ça, je trouve ça excellent. Est-ce que tu te souviens de ta première passion?
Oui, l'équitation.
Ouais.
Ça reste vraiment ma première passion et ça reste ma plus grande passion. C'est vrai que j'étais très très mal dans ma peau. Je me suis toujours sentie très très différente. Je me faisais beaucoup harceler à l'école aussi. Et l'équitation, le fait d'être en contact avec les animaux, parfois ça, c'est un côté un peu triste, mais franchement, ça m'a aidé beaucoup à me développer, à avoir plus confiance en moi. Et j'avais comme un petit cocon avec les animaux.
Ouais, tu te réfugiais, entre guillemets,
complètement.
Avec les animaux.
Ouais, toute la semaine, j'attendais, tu vois, le samedi, je passais ma journée à faire du cheval à l'écurie. C'est aussi pour ça que maintenant, tu vois, j'adore être à Paris, en ville. Par contre, je suis très, très bien aussi dans la campagne avec mes bottes, dans les bousses de vache. Je me sens très bien aussi.
Ouais.
Et je pense que c'est aussi un moment un peu de mon enfance qui me réconfortait, tu vois. J'ai besoin des animaux, j'ai besoin des chevaux, donc ma plus grande passion.
Et donc, comment une petite fille comme toi qui faisait tout un tas d'activités hyper, j'imagine, énergiques, comment est-ce que t'en es arrivée à te faire harceler? Enfin, est-ce que tu peux me parler un peu de cette période?
Ouais, je pense que quand t'es assez différent, j'ai toujours été très différente. Et tu sais, les enfants sont méchants. Enfin, c'est,
clairement.
Voilà.
Ouais.
En plus, c'est assez d'actualité. On en parle aussi beaucoup plus maintenant, donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Je pense que les enfants sont méchants. Moi, j'ai toujours bien aimé manger, donc j'avoue, j'étais une petite boulette, j'avais des bonnes
joues. Donc, j'ai un point en commun.
Voilà. On a beaucoup de points en commun pour ça. Et je pense que j'ai toujours bien aimé manger. Donc, on me reprochait, voilà, tu sais, c'est des trucs horribles. Ah, y a la grosse vache qui arrive. Enfin, c'est des trucs horribles qu'on te dit, que tu gardes. Et du coup, j'étais très complexée, très mal dans ma peau. J'ai eu une relation avec la nourriture qui était absolument horrible. Je pense que j'étais bourrée de TCA et j'étais encore pas très, très, très longtemps. Je pense que la nourriture, ça a été aussi vite un sujet, tu vois. Surtout dans un environnement, alors, de province, une bourgeoisie de province, tu vois, et avec des parents photographes. Alors, c'est vrai que je leur ai dit il y a pas longtemps, je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps. Mais le fait qu'ils soient dans l'image, ça joue beaucoup. Et nous prenait, enfin voilà, avec ma sœur, toujours en photo. Et forcément, quand tu prends en photo, ils sont très forts aussi, bon, que ce soit en retouche, mais du coup, ils voient tes moindres défauts, tu vois.
Ouais.
Donc, je sais qu'ils n'ont aucun problème à dire, là, Marion, t'as pris un peu de kilos. Enfin, tu vois, toujours très dans l'apparence. Et quand t'es gamin, ça te matrixe un peu, ouais.
Surtout dans un mood où, à l'époque, je dis à l'époque. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais surtout dans le game de la photo, etc., effectivement, il fallait corriger chaque détail, etc., que ce soit dans les magazines, etc., donc il fallait que tout soit parfait.
Complètement.
C'était pas du tout représentatif de la réalité, en fait.
Complètement. Et je pense qu'en tant que parent aussi, tu as envie que ton enfant, ça soit le plus beau, le plus intelligent, le plus brillant. Ça met une pression énorme. Moi, j'ai eu longtemps, justement, ce syndrome, tu vois, de la bonne élève, de faire les choses super bien. J'étais une gamine super stressée, super angoissée. J'avais un planning de vie. Alors, depuis que j'ai 11 ans, tous les soirs, je me faisais mon heure par heure, mon planning du lendemain. Déjà, tu vois, j'étais un peu la seule à faire ça. J'étais rythmée, mais c'était militaire, parce que du coup, j'étais dans le privé. Donc, de 8h, le bus venait te chercher jusqu'à 18h30 tous les jours. C'était hyper militaire. Depuis mes 10 ans, je me lève à 5h45 le matin. Je faisais mes devoirs le matin, tu vois.
Wow, donc, ça m'a... Miracle morning avant...
Ah, non, mais avant que le livre sorte, j'aurais pu te l'écrire, le truc, tu vois. Et je regrette pas, parce que ça te donne une discipline incroyable. Tu sais ce que c'est le travail depuis que tu as 10 ans. Mais ça te donne aussi, aussi un peu des petits traumas, quoi.
C'est fou que tu aies été dans cet état d'esprit-là hyper tôt. Genre, dès l'âge de 10 ans, genre... C'est hyper jeune, en fait, de dire là, je me fais mon planning, tac, tac, tac.
Ouais, mais je pense qu'on est à côté de l'Allemagne aussi, en Alsace, tu vois.
Non, mais. Certaines rigueurs.
Oui, je pense. Tu vois, par exemple, sur les horaires, je sais que je suis. Mais tu vois, même encore avant, j'étais en avance. C'est mon angoisse d'être en retard. Je peux pas être en retard. Soit je suis en avance, soit je suis pile à l'heure. Margot qui. Et hyper, elle est jamais à l'heure. Et ça, parfois, au début, ça me faisait péter un plomb. Mais même sur les rendez-vous, j'ai lâché prise aujourd'hui pour énormément de choses. Ça me faisait péter un plomb. Mais effectivement, depuis toute petite, j'avais envie de bien faire. Je me mettais une pression de dingue, surtout sur mon apparence, sur ça, sur les notes, sur, tu vois. Mais parce que j'ai toujours, j'ai jamais eu envie de rester dans ma province. Moi, Paris, j'imaginais ça avec des grands yeux, tu vois. J'ai toujours su que je partirais, que j'avais envie de voyager.
Comment est-ce que t'as vécu tes études, justement, et à quel moment ça s'est arrêté, ce harcèlement? Est-ce que ça a été continu?
Non, ça a été vraiment en primaire
Toujours
et au
primaire,
collège. Ouais. Primaire, tu sais, les années un petit peu ingrates.
Ouais, puis après le lycée, collège. Les gens s'en foutent. Ouais, chacun son...
c'est ça, collège, j'ai rencontré ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Viviane. C'est marrant, c'est la première fois que j'en parle en podcast depuis que j'ai 11 ans et du coup, j'ai 25 ans, donc voilà. Ça date. Et en fait, j'ai trouvé vraiment mon binôme, Viviane, qui a le même profil que Margot. J'ai l'impression que je trouve aussi, tu vois, des meilleures amies et des binômes qui sont beaucoup plus calmes.
Qui ont de traits de personnalité complémentaires.
Elle m'a totalement apaisée et en fait, j'ai commencé à déléguer aussi, j'avais envie. Je pense que j'ai complètement transformé aussi. Je suis passée de, clairement me faire harceler, où j'étais très éteinte. Et petit à petit, j'ai pris ma place et j'avais besoin d'être dans la lumière, je pense sincèrement. Et c'est marrant quand je dis ça, c'est ce côté un peu comme si, narcissique et dire ça. Mais non, j'avais juste envie de prendre ma place, j'avais envie d'être déléguée, j'avais des choses à dire, j'avais envie de les dire. Et Viviane était un peu la femme de l'ombre, tu vois, qui m'aidait. Elle me faisait des campagnes, elle était hyper forte en dessin, elle me faisait des super campagnes, donc j'étais déléguée à chaque fois.
Coach personnel.
Ouais, c'est un cœur et j'espère qu'elle écoutera cet épisode et je la remercie. Et
c'est marrant parce que le côté de mettre en... Enfin, aller dans la lumière, c'est le fait de te révéler, en fait.
Ouais,
de par ta personnalité, de par qui t'es vraiment.
Oui.
Parce que je trouve que dans l'enfance, et que ce soit en primaire, au collège, etc., surtout quand on est différent, on se conforme aussi à ce qu'on visualise comme étant la norme, en fait.
Oui.
Donc, pendant de très longues années, personnellement, j'ai été dans cette conformité de ne pas être qui j'étais vraiment.
Mm-hmm.
Et le jour où tout ça a explosé, et c'est encore un travail, hein, je pense, au fil des années, etc.
Mm.
Et du coup, c'est pour ça que ce côté... lumière, je suis très aligné avec ça.
Tu t'es révélé, en fait, tu as pu exprimer ce qu'il y avait au fond de toi.
Ouais, exactement. Et c'est pour ça, en fait, que sur les années, quand on est enfant, etc., on se rend pas compte qu'il faut faire les choix qu'on a envie de faire.
Mmh.
Il faut être qui on a envie d'être. Mais il faut pas imiter le copain qui est populaire potentiellement.
Complètement.
Et
te ravis pas forcément par les bonnes choses. Tu vois, par exemple, j'ai fait un bac S. J'aime pas les maths, j'aime pas la physique. Enfin, tu vois, j'ai fait ce PSVT parce que voilà, juste parce que le bac S est censé être prestigieux. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout aujourd'hui?
Ouais.
Tu vois, et je crois que tu avais fait STMG, toi, j'avais fait.
Exactement.
Tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi.
Exactement. Et ça a été un choix. Moi, en fait, j'ai toujours été assez mal pendant les études. Pareil, j'ai subi du harcèlement, primaire, collège aussi. Mmh. J'ai toujours détesté qu'on m'impose de faire des trucs. Dès que j'aimais pas faire quelque chose, je ne le faisais pas.
C'est le scorpion en toi. Ça, c'est le
Donc je me tapais des genre 3, 4, 5 sur 20, tu vois, etc. Mmh. Par contre,
oui.
Toutes les choses que je kiffais faire, je performais de fou dans ces sujets, quoi. Mais ouais, j'avais un gros problème avec l'autorité.
Oui, j'allais dire.
Avec dès qu'il y avait une sorte de hiérarchie, tu vois, ou des profs qui prenaient la grosse tête, tu vois, parce que pour moi, un prof, il est censé t'accompagner à grandir, faire aimer des matières. Et heureusement, il y en a. Heureusement, il y a plein. J'ai eu plein de profs génialissimes.
Oui.
Mais dans l'autre sens, il y avait des gens où ça matchait pas du tout. Et je pense que j'avais un petit côté insupportable aussi sur certains sujets.
Ouais, mais t'as envie de te rebeller. Enfin, je pense que c'est aussi... Et c'est des personnalités comme toi et moi qui, aujourd'hui, on sort du cadre, on crée des choses. Ça. Tu vois, les personnes, je pense, qui t'ont harcelé, qui m'ont harcelé aussi. Bon, ils ont pas... non, mais c'est gros bisous.
C'est ciao.
Franchement, ça m'a aidé à grandir. Et vous allez... Enfin, vous ragez, moi, je réalise mes rêves, quoi. Tu vois?
Exactement.
Donc, et je suis d'accord avec l'autorité. Moi aussi, j'avais... Et puis, on me disait, Marion, ne fais pas ça. T'inquiète pas que j'allais le tester parce que... Et c'est con, tu vois, comme réflexe, c'est vraiment un réflexe primaire, mais même encore aujourd'hui, quand mes parents me disent « Marion, franchement, fais pas ça », je vais le faire.
Ouais, esprit de contradiction. Je me dis d'aller dans un sens, je vais aller dans l'autre sens.
Ouais, mais... Et longtemps, tu t'es drivé effectivement par ton ego. Après, il faut travailler sur soi, il faut savoir pourquoi tu le fais. Le bac S, clairement, franchement, ça m'a rien apporté.
Ouais.
Par un gros complexe et de mal vivre les choses et d'apprendre des trucs en physique, ce point-là et tout, je m'en fous, j'ai rien retenu. Voilà.
Après tes études, t'as fait tout un tas d'expériences professionnelles, alors même pendant tes études, hein, puisque des stages, des alternances aussi peut-être.
Pas d'alternance,
que des stages.
Oui.
Et notamment des expériences à l'étranger.
Oui.
Qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences professionnelles?
Waouh, beaucoup de choses. C'est vrai que quand je suis arrivée en école de commerce et que j'ai rencontré Margot, du coup, on avait 18 ans. Et moi, j'avais envie de travailler dans le luxe. Donc, vu que j'ai fait beaucoup d'équitation, moi, c'était Hermès ou rien. Donc, dès ma première année, j'ai candidaté chez Hermès à tous mes stages. Même, tu sais qu'on devait faire un stage de un mois ou deux mois.
Mmh.
je candidatais. Et à l'époque, tu recevais les lettres de refus, de coucou, vous n'êtes pas accepté. Moi, je les ai gardées, j'en ai reçu 3. Et j'ai fait d'autres choses. Par exemple, j'ai bossé chez Nespresso, je me suis, tu vois, milieu de gamme en vente. J'ai fait du marketing chez Ravensburger, donc des puzzles. J'ai bossé aussi chez Système U en centrale d'achat, en com. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai déjà l'étranger.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais quand je suis arrivée à Paris, du coup, en 2019, alors pendant 6 mois, on était au Mexique avec Margot. On a fait un bachelor à l'UM Strasbourg, du coup, au début. Et première année, je suis partie 3 mois en Irlande. Bon, moi, j'ai du mal avec les pays où il fait froid, il a plu beaucoup. Donc, bon, voilà. Je suis pas ressentie grandie, à part le fait que, du coup, t'apprennes vraiment bien l'anglais. Et troisième année, on était 6 mois au Mexique. Et c'est vrai que là, je me suis complètement révélée. Je pense que si quand t'as une enfance et une adolescence quand même assez cocon, clairement, j'étais dans une petite bulle dorée. Franchement, je savais pas ce que c'était la vraie vie. À 18 ans, mes parents ont divorcé. Donc, je pense que là, j'ai commencé à comprendre que le monde était méchant. Tu vois, et puis après, il y a tout qui s'est enchaîné avec études, post-bac, partir à l'étranger. Quand on est parti au Mexique en 2018, donc on avait 20 ans. Tu vois, partir pendant 6 mois aussi loin à deux, c'est un vrai truc, quoi. C'est vraiment quelque chose. On était 300 étudiants internationaux. Donc, on a fait beaucoup la fête, quand même, j'avoue. On a beaucoup voyagé. C'était génial.
Donc, c'était à Monterrey, si je dis pas de bêtises.
C'était bien renseigné.
Exactement, toujours. et donc, avec, effectivement, Margot, tu me dis qu'il y a eu un switch à ce moment-là, que tu t'es révélé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es révélé, justement ?
Je pense que c'était de vraiment connaître des personnes qui font pas forcément partie, du coup, du milieu dans lequel j'avais vécu. Je pense qu'on était clairement dans une petite bulle. Donc, avec des personnes qui nous ressemblent, qui sont issues du même milieu que nous. Quand tu pars à l'étranger, que tu as 300 étudiants internationaux, que tout le monde vient de partout, tu challenges tes idées, tu apprends plein de choses. C'est une ébullition, en fait, mentale, culturelle, tout, qui est énorme. Et tu t'en prends plein la tête. Et en 6 mois, tu grandis plus qu'en 18 ans, quoi.
Ouais, c'est un vrai accélérateur de vie.
Complètement.
Comme je pense, le côté voyage, c'est vraiment en termes de découverte culturelle, découverte humaine aussi, découverte sur soi. Effectivement, en 6 mois, si t'avais passé 6 ans à Mulhouse, tu n'aurais pas vécu du tout les mêmes choses.
Pas du tout. Et même sans passer 6 mois, tu vois, par exemple, je suis partie toute seule à Bali en été 2023. J'avais envie de partir toute seule avec mon sac à dos. Mais mes copines ont dit « Marion, on vient avec toi, ça va être trop bien ». J'ai dit « Non ». Non. Foutez la paix. Je vous aime énormément, mais j'ai envie de partir toute seule. Et je suis partie, j'avais envie de partir à l'autre bout du monde. Alors, bon, c'est Bali, hein. Je suis pas non plus partie dans un endroit qui craint et tout. Mais j'ai vraiment voulu, tu vois, aller en mode backpack, partir avec moi-même. J'étais toute seule pendant 15 jours. Et au final, là-bas, c'est tellement cool que j'étais jamais vraiment toute seule. Je rencontrais plein de gens. Même, je me souviens, un soir à Ubud, j'avais envie de manger au resto, mais j'ai envie d'être seule. Tu vois, j'avais mon petit carnet, je voulais être avec moi-même. Je me mets à une table, je rencontre, tu vois, des Allemands, des Indiens, commence à discuter. Je me suis dit, mais c'est génial. Et quand t'es bien avec toi, seule, les gens viennent à toi.
Ah non, mais c'est clair.
Tu vois, tu deviens hyper magnétique aux gens et ils ont envie d'être avec toi. Mais les voyages, c'est la plus belle chose qui soit. J'ai jamais autant grandi. J'aurais jamais grandi comme ça si j'avais pas fait autant de voyages. Ouais.
Et donc, ce voyage-là, il a lieu en 2019
2018, du coup.
2018.
Ouais. De juillet à décembre 2018. En janvier, du coup, je faisais mon stage de fin d'année à Paris. Uh-huh. Donc, j'étais en cabinet d'avocat à ce moment-là, en business développement, avenue Hoche. Et en fait, quand je suis arrivée, j'étais une coloc à 4 dans le 5e avec mes 3 meilleurs potes.
Ouais.
Et moi, j'avais toujours Hermès. En tête, et quand je suis arrivée, je regardais beaucoup les annonces sur Fashion Job. Je pense que ça doit encore exister. Et je vois une annonce CDI samedien, du coup, c'est le genre de contrat qu'on appelle comme ça, samedien à Paris, au magasin de Sèvres. Donc il y a 3 magasins
samedien
à Paris.
Samedien
pour les samedis.
Pour les gens qui.
Oui. Voilà. Donc en fait, tu
pas
travailles
les
tous les
de...
samedis. Les habitants de samedi, Samediland. Et en fait, tu travailles tous les samedis dans la maison. Donc moi, c'était nickel, j'avais mon stage. Je me suis dit, c'est top, je fais mon stage du lundi au vendredi. Le samedi, comme ça me met un pied chez Hermès, je découvre et tout. Et je me suis dit, franchement, je me suis pris tellement de refus de la maison en stage. J'ai fait l'UM Strasbourg, c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, quand tu fais pas une école à Paris, considère pas trop. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller me pointer en boutique. Donc, je m'habille, je mets ma meilleure tenue, je mets, je pense, 2 heures à me préparer. Et j'arrive en boutique, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie, j'arrive avec mon CV comme ça. Et je leur dis, en plus, je tombe du coup sur une collègue qui s'appelle Alexandra, qui sera une collègue après, par la suite. Et je dis, bah voilà, j'ai vu l'annonce de stage sur, sur Fashion Job, j'ai envie de candidater, ça fait des années que je rêve de la maison et tout. Et donc, elle donne mon CV. 3 jours après, le siège m'appelle pour me proposer un entretien. J'étais comme dingue. Je passe en plus, mais franchement, mais même quand j'étais en stage en cabinet d'avocat, je faisais que de préparer mon entretien pour Hermès. Mais tu sais que j'apprenais même des trucs lunaires, tu vois, c'était mon côté allemand. Je sais pas, des chiffres sur la maison, sur des choses qui n'ont même pas à voir avec le poste de vendeuse dans une boutique, tu vois. Mais j'apprends vraiment de tout, même les parts de marché en Asie, tu sais, des trucs que jamais ils m'auraient posé comme question. Et j'arrive à cet entretien tellement, tellement déter, là, impressionnée. 2 jours après, j'ai du coup, ça s'est passé très, très vite, un entretien avec ma manager dans la boutique. Et donc, je suis arrivée en bijouterie horlogerie et puis j'ai pu entrer chez Hermès, quoi.
Là, le goal était
là, franchement, et c'était un CDI en plus, c'est un contrat CDI. Et en 2019, on était 118 personnes monde à avoir un CDI, wow. N'importe quel contrat.
Ok. Et tu as encadré le contrat ou pas?
Et ouais, je les ai mis à côté des refus, tu vois. Et on a fait péter le champagne. Hein.
Ouais. Et donc, t'es resté chez Hermès jusqu'à encore assez récemment, je trouve, si je dis pas de bêtises.
Oui, ouais.
En 2022.
Carrément, je suis restée du coup 3 ans hein, chez Hermès, tous les samedis. Donc en fait, j'avais tout en parallèle, mes stages la semaine, j'ai tout fait en parallèle. Mais c'était l'éclate, franchement, Hermès,
c'était au niveau de tes attentes, on va dire.
Mieux
que tes attentes.
Ouais,
okay.
Je pense que j'avais envie d'y aller pour les mauvaises raisons. Comme le bac S, tu vois, tu veux entrer dans le luxe parce que c'est prestigieux. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que t'en retires. Je pense
que c'est l'équipe.
L'équipe Hermès, et pour le coup, je dis même pas ça pour être pompeuse, c'est une vraie famille. Il y a encore un mois, je reçois un message d'une personne du groupe qui n'était pas du tout mon collègue, qui a commandé justement sur Pauline. Toute l'équipe a commandé. Il y a un vrai esprit de famille. Et ce que ça m'a apporté avec les clients, gérer des litiges, parce que surtout en bijouterie et horlogerie, t'en as beaucoup. Apprendre vraiment des choses sur la maison, sur des produits d'exception. Mmh. J'étais fière, tu vois, de me dire que je travaille chez Hermès, mais parce que c'est une belle maison. Hermès, c'est vraiment une très, très belle maison familiale. Et même avec ils sont, je pense, 15 000 personnes monde, ils ont réussi à construire une vraie cohésion.
Ok.
C'est incroyable, c'est impressionnant. Je pense que même des boîtes qui sont 15-20 switch ou n'arrivent pas à créer ça, eux à 15 000, tu vas dans n'importe quel Hermès. Du coup, quand je voyage, je vais tout le temps dans le Hermès, que ce soit à Dubaï, tu vois, à Singapour, etc. Et je retrouve la même énergie.
Ouais, les boutiques sont assez, assez belles. Enfin, c'est incroyable même, plus que belles d'ailleurs.
Et les gens sont... les vendeurs sont très... je ne sais pas comment ils arrivent à les sélectionner. Honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Ils sentent quelque chose et la relation est très, très simple, en fait. Et finalement, le luxe, c'est Hermès, c'est ça. C'est la simplicité dans les échanges. C'est, tu vois, une personne qui va acheter un canapé à 300 000 euros, il veut pas de choses trop pompeuses, de rideaux, non. Il veut juste parler à quelqu'un qui le considère.
Il veut son canapé à 300 000. Déjà.
Il veut son canapé, il le paye en sans contact. Il veut des petits macarons quand même, faut pas déconner. Mais tu vois, la personne qui va acheter un bracelet à 200 euros va être beaucoup plus ennuyante, relou.
Tu peux le dire.
Très relou. Alors que le mec qui achète un canapé à 300 000, il va être très sympa.
Ouais, ça m'étonne pas. Ok, super. En parallèle de tout ça, effectivement, en août 2021, tu lances Pauline.
Oui.
Donc Pauline, on en a parlé au tout début de l'épisode. C'est la première marque de confiture de légumes made in France. Pauline, c'est le fait de relier Paulette et Jacqueline, qui sont le nom de vos deux grands-mères avec Margot. Tu ne crées pas ça seule, mais tu crées ça avec ton amie et associée Margot aussi.
Oui.
Qu'est-ce qui te donne envie de justement de créer une marque de confiture de légumes?
Moi, j'adore cette question. En fait, en 2020, du coup, pendant le Covid, moi, je me suis mis en freelance, en com, pour le petit backstage par rapport à ça. Bah, via l'équitation, je rencontre une dame qui est porte-parole en Suisse. Elle commence à me donner des clients en France, dans la com. Je commence à faire ça. Mais j'ai trop envie de créer un produit. Tu vois, parce que le service, c'est quand même très différent. T'as juste besoin de ton ordi et t'as pas la créativité de créer un concept, un produit. Tu vois, je suis hyper curieuse de ça.
Quelque chose de palpable.
Ouais, de concret, une vraie boîte. Même à l'époque, je me disais pas, je vais créer une startup, ça va être cool. Je pense que j'avais juste envie de créer un produit. Et du coup, on se retrouve avec Margot, août 2021, le 10 août 2021. Et pour la petite anecdote de date en plus, c'était pas du tout fait exprès. C'est le 10 août 91, donc 30 ans avant que mon père ouvre son premier magasin photo. Donc sur les dates aussi, on est très très bien.
Planète Saline.
Voilà. Et en fait, avec Margot, bah en fait, on se dit mais on a trop envie de créer quelque chose. Forcément dans la food, on adore manger les nouveaux produits. On, tu vois, on teste toujours des nouveaux restos et tout. Et on se fait un peu, tu vois, un brainstorming. On est à Paris, qu'est-ce qu'on peut créer, etc. Et on se dit, mais attends, mais quand t'es petite, on faisait des confitures de légumes. Attends, c'est bizarre, les gens, enfin, on connaît pas ça. Quand on en parle à d'autres personnes, on se dit, mais on connaît pas. On fait toutes les épiceries à Paris. On va au bon marché. Et du coup, ben, on n'en trouve pas. On cherchait une confiture de poivron, du coup. Vraiment, on reste 2 heures dans le bon marché. On fait tous les rayons. On va dans des épiceries à Paris. Et on n'en trouve pas. Et du coup, moi, on en trouve. Puis on est contente. On se dit, mais attends, c'est incroyable, on n'en trouve pas. Et après, du coup, on a été allé aux confitures de légumes. Et depuis le 10 août 2021, ça ne nous a jamais quittés. Donc, en fait, on commence à faire des tests. Moi, j'habitais encore à Paris à ce moment-là. J'avais une cuisine de 1 mètre carré. On commence à faire des tests et tout. On se rappelle un peu ce que nos mamies faisaient, du coup, Paulette et Jacqueline. Jacqueline, elle faisait beaucoup de confitures de potimarron, par exemple. Et mamie Paulette, parfois, elle faisait rhubarbe courgette, tu vois. Mais à l'époque, c'était plus pour elle un moyen de transformer ce qu'il y avait dans le jardin. Nous, forcément, on l'a vu comme une opportunité business parce que ça n'existe pas et c'est un produit de niche. Mais nos aînés faisaient quand même la confiture, même la confiture de tomates vertes. Encore aujourd'hui, on nous le dit souvent. Ah bah mon grand-père faisait de la confiture de tomates vertes, etc.
Il mettait ça dans une casserole.
Et donc exactement, tu vois, il réfléchissait pas au-dessus, pour machin, on s'en foutait. Et donc du coup, on commence à faire ça, on finit nos masters. Donc moi, j'avais encore Hermès, j'avais encore ma boîte de com, je finissais mon mémoire. Enfin, j'avais encore plein de trucs. Mais je me sens, tu vois, tellement vivante quand j'ai plein de choses que je pense que ça a boosté.
T'avais l'adrénaline de tout ça, en fait.
De tout.
Parce que potentiellement, quand on visualise ça d'un point de vue extérieur,
ouais,
on peut te dire, ouais, comment t'as vécu ça en termes enfin, je sais pas, de pression, de semaines bien chargées, etc. Et je pense que, alors tu pourras répondre à ces questions, mais je pense que du coup, toi, t'étais tellement animé par tout ça qu'en fait, t'avais encore plus d'énergie que si tu faisais une seule activité, en fait.
Mais 100%. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps besoin d'avoir 50 000 projets sur le feu pour rester hyper animée. C'est un peu, tu vois, cette hyperactivité cérébrale tout le temps, qui parfois, 5% du temps, va être hyper épuisante. Et du coup, je me connais, je sais qu'il faut que je dorme. Mais sinon, en fait, je pense que ma pire angoisse, c'est l'ennui, quoi. Et parfois, avec Margot, je sais pas, pendant 24 heures, dès qu'il se passe pas une grosse news, parce que du coup, on a été aussi habitués à ces montagnes russes-là. C'est pendant 24 heures, c'est juste un peu plus plat. Hein. Il se passe rien de fou, mais c'est plat. Je lui dis, Margot, là, je meurs d'ennui. Vite, on trouve un truc. C'est ça qu'on lance, tu vois, parfois des concepts, des trucs, ou quand tu me dis, ah, j'ai vu ton post, machin. En fait, c'est juste parce qu'à ce moment-là, je m'ennuyais. Je me suis dit, attends, il faut que je trouve un truc. Tu vois, là, mon post par rapport à Michel et Augustin. J'en parlais encore hier, je m'ennuyais. Je me suis dit, Marion, qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas t'ennuyer? Tu veux rencontrer Michel Augustin?
C'était tu génial, ça.
Tu fais
ça,
un post
en parlera aussi.
Et c'est pour ça que quand les gens me disent, ouais, super, ta com, en fait, c'est pas de la com, c'est juste que je suis en train de me soigner parce que je m'ennuie.
Ouais, je comprends.
Donc là, je peux enfin le dire, je m'ennuie à ce moment-là.
Chaque action, en fait, c'est une petite pile. En fait, dans le dos, t'as une petite ouverture. Et
c'est ça. T'as tout résumé, c'est exactement ça.
Trop cool. Comment ça se passe ces premiers mois, justement, avec Pauline? C'est quoi un peu vos priorités à ce moment-là? J'imagine que, évidemment, des tests dans cette cuisine de 1 mètre carré.
Oui.
Et à quel moment ça passe à quelque chose de plus concret? Un produit qui sort physiquement avec un logo et des...
En fait, je pense que on était très très insouciante. Ce qui est vraiment génial au début, je pense que quand tu crées un projet, faut être très très insouciant. Tu vois, j'ai commencé à faire de la com du coup en décembre 2021. On n'avait pas le produit, pas l'atelier de prod. On avait juste le nom de la marque et des tests, tu vois. Mais bon. Hop, le culot, j'ouvre un compte Insta et on commence comme ça. Et donc, des tests, évidemment, faire goûter. Après, on a toujours eu l'œil un peu quand même marketing dans les recettes. Tu vois, il faut qu'à chaque fois, on puisse trouver une épice. Donc, les premières recettes, ça a été ça. le financement. On a mis 10 000 euros de capital. On est toujours à deux dans la boîte. On n'a pas d'investisseurs. Et on a fait une première campagne de crowdfunding en mai 2022, du coup. Donc, il y a eu un moment, en fait, à partir de janvier 2022, j'ai fait mon stage de fin d'études de master pour Pauline. Donc, le logo, créer l'univers, la com, savoir. Mais en fait, tu sais rien. Tu sais pas où tu veux aller. Les prix, la distribution. On a commencé le B2B, le B2C en même temps. Donc créer un site internet, tu vois, les éternelles questions, Shopify, WordPress, tu sais pas, créer la société aussi, parce que tu fais une SAS, une SARL, t'en sais rien. Donc en fait, il y a eu aussi un gros moment où j'ai eu beaucoup d'appels, de contacter des entrepreneurs, etc. Et c'est aussi pour ça que les épisodes que tu fais, franchement, merci. Parce que non, mais tu vois, d'écouter de l'expérience des autres, ça fait que tu fais quand même beaucoup moins de conneries. Je pense que j'ai fait beaucoup moins de conneries parce que j'ai eu des petits rappels de « Ah ben non, fais ci ou ça, ou dans ce cas-là », tu vois. Après, faut faire attention avec les conseils, ça dépend de la personne, mais c'est hyper important ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente de partager parce que je me dis, si je peux éviter juste deux, trois trucs, c'est cool, quoi.
Bah, c'est trop gentil. Attention, je vais rougir. C'est adorable. Et effectivement, c'est l'une des missions du podcast de potentiellement mettre en avant des aventures de vie qui font que peut-être qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs ou peut-être qu'on va les faire, on va mieux les appréhender, mieux les gérer. C'est ça l'objectif. Parce qu'effectivement, chaque parcours est unique. C'est pas en écoutant, un Frédéric Mazella, par exemple, qui n'est jamais passé sur Sarayan d'ailleurs, mais qui passe dans beaucoup de podcasts ou à la télé. C'est pas en dupliquant toutes ces actions qu'on va potentiellement devenir le prochain Frédéric Mazella.
Complètement.
Donc, faut prendre justement tout ce contenu et puis après, derrière, voilà, tu fais tes propres choix. Tu vas forcément faire des erreurs, mais derrière, tu auras un état d'esprit peut-être un peu plus affiné, peut-être, je sais pas.
Complètement. Mais c'est comme les conseils, tu vois. Au début, justement, on a commencé à être dans des incubateurs de nos écoles et ça a été très bien pour commencer, ça nous a aidés. Mais ne jamais prendre de conseils de personnes qui n'ont jamais monté de boîte, tu vois. Ces personnes qui sont leur chute, non, mais vous devriez faire ça. On a eu justement une personne dans un incubateur que je ne citerai pas, avec qui on a eu des soucis. Mais parce qu'il nous a dit, non, mais avec ce dossier-là, vous n'aurez jamais de prêt à la banque. Moi, j'adore quand on me dit, avec ça, tu le feras pas. T'inquiète pas que deux semaines après, c'était signé et on l'a fait. T'inquiète pas que je t'ai dit, grâce à ce qu'on a fait, on a réussi. Tu vois, les personnes qui te disent, qui te démolissent, non, mais avec ça, vous arriverez à rien et qui te donnent pas de solution, à bannir tout de suite. Personne négative, toxique, qui donne une mauvaise énergie, hop. Ça dégage.
Alors moi, je suis très revanchard, donc je.
Moi aussi.
Je suis très aligné. Si tu me dis quelque chose, effectivement, je peux 5 ans après revenir vers toi et te dire voilà.
Moi aussi. Ouais, mais parce que ça fait, franchement, au bout d'un moment, ça fait du bien.
Ce qui est con, mais du coup, c'est. Je sais pas si c'est un bon booster. Je crois pas que ce soit un
booster positif. Mais parce que c'est pas ton booster principal.
Non.
Non.
Ça doit pas être un booster principal.
C'est la cerise sur le gâteau.
Si c'est un booster principal, ça va te détruire. Mais par contre, effectivement, si ça fait partie des éléments qui font que derrière, tu arrives à faire ce que tu fais, pourquoi pas, hein.
Ben, tu vois, par exemple, quand une nana qui m'a harcelé à l'école, candidate pour un job chez Pauline. C'est bon, non? Tu vois? Je pense que...
Bah, tu lui as répondu ou pas?
Bien sûr.
Okay.
Que,
tu l'as reçu en entretien?
Que, bien sûr que la candidature serait étudiée. On n'a pas été reçu.
En l'an 2032.
Et qui a aussi voulu aller chez Hermès, qui m'a donné son CV pour donner la maison. Je ne l'ai jamais transféré.
Bah, logique.
Non, mais tu vois.
Et les gens sont quand même... sont quand même intéressants, hein, culottés.
Ouais.
C'est... Parfois, tu as certains comportements, tu te dis, waouh, mais comment jamais j'aurais eu le culot de faire 1% de ce que la personne vient de faire, tu vois.
Mais c'est bien.
Mais c'est bien. Ouais.
Le karma. Je crois beaucoup au bon karma, au mauvais karma. C'est...
Et donc.
on se perd.
Pas du tout. On est là pour se perdre un peu. Hein. C'est, aucun souci. De toute façon, il y aura une sortie à la fin, hein, quelque part, par là.
Ah, je reste pas là tout le temps. D'accord.
On peut, hein. mais pour revenir au crowdfunding en 2022.
Oui.
Évidemment, c'est un succès.
Franchement, c'est cool.
Ouais,
oui, complètement.
Ça fonctionne bien.
On lance une vidéo. En plus, on fait à ce moment-là encore pas d'ads du tout, même encore aujourd'hui, que la création de contenu. Quand je vois encore les fiches produits et tout, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on avait, même les photos. Enfin, ça donnait pas du tout envie, mais c'est notre cercle proche. Et vu qu'on a commencé la com assez rapidement, les gens étaient quand même assez embarqués par deux nanas qui se lancent. Même s'ils avaient peut-être pas forcément envie de tester le produit, ils avaient envie de nous soutenir. Donc ça, hyper, hyper cool, hyper important. Je sais pas, on a fait peut-être 200%, pas une campagne extraordinaire, mais tu vois, on a pu surtout avoir du financement pour faire notre première production. Donc, trouver un atelier de prod, on produit à Metz dans une conserverie, encore maintenant aussi une partie. Parce que forcément, au début, c'est pas avec un prêt de 30 000 euros que t'achètes une petite usine, des confitures, des machins. Donc, système D, voilà quoi.
Puisque là, effectivement, une des problématiques ou une des complexités de ton business, c'est qu'effectivement, il faut avoir des fonds pour développer, voilà, pour sortir le produit à un moment donné et le vendre et tenir aussi une capacité de production, etc.
Sans être en rupture de stock.
Sans être en rupture de stock, évidemment, même si ça, entre guillemets, ça arrive à toutes les boîtes qui font ce genre de produit aussi. Mmh. À quel moment est-ce que tu as la confiture? Enfin, la première confiture dans les mains, le
avec,
produit fini.
Avec l'étiquette.
Ouais.
Du coup, été 2022. En fait, on a vraiment lancé en septembre 2022 le site internet. On a fait une soirée de lancement. Donc, j'irai août 2022, on avait le produit. Donc, ben, pile un an après avoir l'idée.
Ça vous a fait quoi?
Ah bah, tu pleures, hein. Non, mais c'est trop d'émotion. Parce que ouais, tu pleures, t'es trop heureux, t'es trop fier, tu as une... ta vraie confiture avec l'étiquette. Ouais. C'est beaucoup d'émotions. Ouais.
Et en vrai, en très peu de temps, puisque un an, ça me paraît hyper court, en fait.
Franchement, on a beaucoup bossé. Hein. On a bossé comme des dingues. Jamais autant bossé. Mais dans le fun. Tu vois, avec Margot, c'est pour ça qu'on est très amis. On rigole beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas un jour où on ne rigole pas. C'est aussi pour ça que s'associer avec une amie, c'est mille fois mieux. Tu vois, on peut bosser jusqu'au bout de la nuit, part en vacances ensemble. Enfin, on est amis et associés. Donc, en fait, on bosse tout le temps et en même temps, on est toujours amis. Parfois, je dis quand même, là, je te parle avec la casquette associée, là, la casquette amie. Mais tu vois, on peut très bien switcher d'un problème de cœur à deux secondes après, on parle du packaging. Enfin, tu vois, c'est hyper naturel, en fait.
C'est très marrant parce que c'était évidemment un sujet sur lequel je voulais aller.
Ouais.
Le fait de s'associer effectivement avec une amie, c'est quelque chose que je connais bien puisque je suis associé avec Mehdi qui à la base est un ami avant d'être un associé. Comment est-ce que vous le vivez justement au quotidien? Alors ça me fait très marrer le côté casquette. Alors là j'ai la casquette associée, là j'ai la casquette amie. Mm. Parce que on sait très bien qu'en s'associant avec un ami, ça peut aussi se terminer en perdant le business et l'amitié.
Oui.
Comment est-ce que vous évoluez ensemble?
Je pense que ça va être très, très bateau, là, le premier mot que je vais dire, mais la communication. En 2022, surtout que moi, du coup, je suis, en termes de personnalité, tu vois, je vais être très up and down. Je suis plus impulsive qu'elle. Quand il y a une bonne nouvelle, je suis à 1 milliard, je suis un feu d'artifice. Par contre, quand il y a une mauvaise nouvelle, là, vraiment, c'est toute ma vie est foutue. Margot est bien plus équilibrée que moi. Et aussi, elle est beaucoup plus chill. Moi, je suis toujours là à la pousser, tout le temps, je veux aller vite, je veux machin. Et parfois, c'est trop aussi, tu vois. Donc, en fait, on s'est apaisé, on s'est calmé, mais on en a beaucoup parlé. Ouais. Et surtout, tous les matins, on se demande sur 100 à combien on est de pourcent. Okay. Moi, souvent, soit je suis à 0, soit je suis à 100%. Margot, elle est entre 30 et 60, tu vois. Elle est hyper équilibrée. Ouais. Mais je sais que si elle me dit 20... Bon, bah, je sais qu'aujourd'hui, je ne vais pas la faire chier, tu vois, et on va y aller doucement. Ouais. Et c'est pareil avec moi. Et je pense qu'on parle beaucoup sur nos humeurs. Bah voilà, aujourd'hui, on se sent bien par rapport à ça. On ne s'emporte pas. Je pense qu'il y a aussi des limites, tu vois, à ne pas franchir, mais que ce soit avec des amis, la famille, c'est pareil. Il y a un respect mutuel. Et je dis toujours, et on se le dit tout le temps, je préfère mille fois perdre Pauline que de perdre Margot.
Bien sûr.
Mais un milliard de fois. Enfin, franchement, je l'aime énormément et c'est mon amie, même plus toute ma vie, quoi. Enfin, on se parle tout le temps, toute la journée. Et plein de gens, ils nous disent, mais attendez, vous vous saoulez pas, vous êtes tout le temps ensemble, vous faites tout ensemble. Bah ouais, parfois, elle me saoule et je dis, là, tu me saoules. Mais deux secondes après, c'est oublié, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est très sain comme relation, en fait.
Mais c'est marrant parce que tu m'as dit... C'est une réponse un peu bateau, mais en fait, la communication, c'est que ce soit pour des associés ou pour un couple ou pour n'importe quelle relation, même amicale en vrai, hein, la communication, c'est la base de tout en vrai.
Ah ouais.
Et je pense que malheureusement, dans certaines situations, il y a des gens aussi qui n'ont peut-être pas le courage ou peut-être pas Qu'est-ce qui fait que, tu vois, il y a des relations d'associés qui ne fonctionnent pas? C'est majoritairement relié à cette problématique de communication. C'est, généralement, c'est des non-dits qu'on positionne sous le tapis. Et le jour où ça pète, bah, y a tout qui pète. Et c'est...
Je pense. Ou alors des personnes qui sont pas complémentaires. C'est vrai que...
Aussi.
Et même en termes de décision, tu vois, on a des pôles bien définis dans Pauline. Et ça, j'ai vraiment, depuis le début, parce qu'on sait ce qu'on aime faire. Elle, tout ce qu'elle fait, j'aime pas forcément. Et tout ce que je fais, elle aime pas faire non plus. Et du coup, depuis le début, on s'est tellement bien dispatché les rôles que ça a permis de pas se marcher dessus aussi. Et par exemple, Margot, elle fait vraiment l'opérationnel, le marketing, le produit, vraiment la conception, tu vois, les maîtres confiturières. Moi, je fais la com, la partie business développement développée, et elle plutôt du coup back office, moi front office. Et on est tellement complémentaires. Mais par exemple, si, il y a plein de fois, on n'est pas d'accord, même encore ce matin, hein. Un truc sur notre site internet, sur une phrase, on n'est pas d'accord. Et j'y écoute, là, c'est ton pôle. Si t'es sûr à 100% que c'est la bonne décision, je te fais confiance. Go. Au pire, on le changera, on évoluera, on, tu vois. Mais il faut bien définir, parce que je connais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont deux et ils prennent toutes les décisions à deux. Et
c'est pas possible.
On est d'accord, hein.
C'est pas possible. Non. Généralement, ça fonctionne pas. Sur du long terme, c'est pas possible.
Non.
Donc, je suis assez d'accord sur le côté chacun son périmètre. Alors après, il y a des décisions qui se font à deux, effectivement, mais il y a des choses sur lesquelles on a plus d'expertise que l'autre. Ça fait partie du jeu, quoi.
Oui.
De la complémentarité aussi.
Et quand t'es entrepreneur, t'as aussi envie de pouvoir gérer de A à Z quelque chose, tu vois, et d'avoir une vision. Parfois, je lui dis, écoute Margot, j'ai trop envie de lancer ça. Là, je suis sûre que ça va marcher, même si tu dis que non, il faut me faire confiance. Parce que j'ai besoin d'être libre dans ce que je fais.
Bien sûr.
J'entreprends pas pour être freinée, ou tu vois, c'est pas du tout le cas. On s'accompagne vraiment. Et ouais. Ça, c'est cool.
Complètement. Si tu devais me résumer un peu les grandes étapes de Pauline, alors 2021, il y a eu le lancement, 2022, le crowdfunding et la sortie du produit.
Oui.
Je sais que après vous avez été championne du monde de confiture. Est-ce que tu peux me raconter cette étape?
En fait, du coup, en septembre 2022, on fait cette grande soirée de lancement. On a notre premier Noël, du coup, parce que c'est vraiment évidemment la période phare pour nous. Janvier 2023, grosse baisse de morale, parce que forcément t'as eu les fêtes, donc il y a eu plein de commandes même sur le site, auprès des épiceries fines aussi, etc. Et janvier, bah forcément, hein, les fêtes sont passées. Donc moi, j'étais tellement encore chaud, tu vois. J'avais envie de continuer. Et là, boum, t'as plus de ventes. Janvier, février, mars, avril, pendant 4 mois, c'est dur. Franchement, c'est dur, surtout que c'est à ce moment-là, quand ça va pas, que tu te compares, comme on parlait un peu avant off, à d'autres industries. Tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Là, je fais, je sais pas... 200 commandes, enfin c'est nul, enfin qu'est-ce que tu fais quoi? Et donc on se passe l'été, je pars à Bali du coup en juillet 2023, c'est un moment où vraiment j'en peux plus je pense, où je suis fatiguée, où ça fait 6 mois qu'on avance mais qu'on n'avance pas trop. À ce moment-là, on faisait que des confitures de légumes. Et en fait au mois de mai 2023, on a un mail de l'organisation du championnat du monde, parce que vu que Margot s'est formée et est devenue maître confiturière, en fait, ils envoient un message à tous les confituriers pour participer. Donc à ce moment-là, on se dit, bah ouais, pourquoi pas, c'est 40 euros l'inscription, t'envoies 2 confitures dans 2 catégories différentes, donc t'as la catégorie insolite et la catégorie traditionnelle, t'as des fruits du coup qui sont imposés, parce que vraiment confiture, normalement c'est 55% de sucre et c'est que des fruits, donc à ce moment-là, on faisait encore que des confitures de légumes, et t'envoies 2 confitures par la poste, c'est goûté par un jury, et puis voilà, et on se dit, de toute façon, les résultats, ils sont en août, bon, on verra, enfin, on perd rien à part 40 euros, quoi. Donc les choses se passent, Margot fait les confitures, et bah, du coup, en août, dernier week-end de août 2023, on reçoit un appel du jury pendant le week-end, et il dit à Margot, bah, vous êtes sur le podium. Nous, avec Margot, on s'appelle, dit, c'est trop bien, on est troisième, quoi. On est sur le podium, on est troisième. Et le lendemain, 18h, le dimanche, ben, il appelle Margot, il dit, mais vous êtes championne du monde, vous avez gagné. On a une vidéo où Margot, elle a filmé ma réaction, mais en fait, what the fuck, vraiment, il y avait 80 confituriers. Okay. Il y a vraiment les grandes maisons de confiture, dont Maison Perrotte, vraiment des grandes maisons, des personnes qui candidatent depuis quand même des années. Nous, ça fait un an. On débarque, sachant que toutes les dégustations elles sont faites à l'aveugle, hein, c'est même pas dans nos pots. Donc on a fait fraises, poivrons, abricots et framboises cassis. Donc normalement, voilà, c'est que des, C'est que des fruits et fraises, poivrons, abricots. On a rajouté du poivron parce que c'est un peu notre, c'est notre marque de fabrique, quoi. Et dégustation à l'aveugle. Ils jugent la texture, la couleur. Et en fait, au cumulé des points, donc framboise cassis a gagné vraiment. Et au cumulé des points, du coup, avec les deux recettes, on est arrivé première sur les 80.
C'est ouf.
Et donc, à ce moment-là,
ça
explose. Tu vois, je crois pas beaucoup à la chance, etc. Ouais. Je crois quand même un peu en une bonne étoile, forcément, parce que honnêtement, voilà, merci les mamies, merci tout ça. Mais tu sais, tu te dis sur du coup 140 recettes, que la tienne soit c'est première. Bon. En plus, ça reste de la confiture dans le sens où c'est pas un plat. Tu vois, donc sur une confiture, t'as deux ingrédients. Normalement, c'est le fruit et le sucre. On n'a même pas pu rajouter d'épices ou quoi. Donc voilà, moi, à ce moment-là, forcément, bah, comme feu d'artifice, mais énorme stress. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais et j'ai un ostéopathe que je connais bien qui soigne beaucoup les sportifs de haut niveau. Et il m'a dit à ce moment-là, parce que j'étais dans un état pas possible, il m'a dit une médaille, c'est un traumatisme. Et j'ai compris. Honnêtement, on ne se rend pas compte. On a l'impression que tout va bien. Tu as toutes les télés qui t'appellent, toutes les radios. Tu reçois vraiment mon téléphone sonner 150 fois par jour. Hein. Pendant une période, j'ai eu une acné énorme. J'ai jamais eu de problème de peau, tu vois. De stress, je pense que mon corps, j'arrivais pas du tout à le gérer. Ouais, franchement compliqué. Hein.
On sous-estime l'impact que le corps a sur notre vie, entre guillemets, tu vois.
Ah ouais.
Parce qu'effectivement, quand tu parles d'acné, c'est clairement ça. Et puis parfois, ça peut être de l'eczéma, parfois c'est...
D'eczéma, j'en ai partout.
Moi, pareil, sur des périodes de stress, j'ai des plaques rouges, tu vois. Voilà. Donc, en fait, c'est des choses incontrôlables et c'est juste ton corps qui te dit « Écoute, tu vas te calmer, toi. »
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que quand tu vas dans cette spirale, tu viens de gagner le championnat du monde.
Bah, t'as pas le choix, en fait.
T'as pas le choix, t'es pas prêt, t'as pas les stocks, t'as rien.
C'est ça.
C'est marche ou crève.
Exactement, exactement. Et donc là, effectivement, t'as pas le choix que de... foncer la tête...
Disons que je suis taureau.
J'avoue que c'est quand même sacrément pratique.
Tu vois, oui.
Mais oui, c'est clair que t'as pas le choix, même si effectivement ton corps t'envoie des signaux, de dire bah, c'est une opportunité de fou et je suis obligé de traverser ça de cette manière et effectivement aujourd'hui. Quoi.
Maintenant ou jamais. Donc du jour au lendemain, voilà quoi.
Ouais.
Et puis aussi, il y a beaucoup de culpabilité parce que tu reçois tellement de messages, tellement de trucs. Moi, juste avant, ça devait être un mois avant, je disais, non, mais attends, t'envoies un message, normalement, on te répond. Mais en fait, tu peux plus répondre au moment donné à tout le monde. Tu vois, j'essaye, mais au bout d'un moment, tu dois avancer sur ton job, répondre aux gens. Donc, tu culpabilises, tu te dis, non, mais j'ai pas envie d'être une mauvaise personne qui répond pas. Mais d'un autre côté, c'est, tu vois, t'es en santé mentale, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'as plus de vie, tu vois. Tu vois pas tes potes, t'as pas de mec, t'as rien, t'as que ton taf. Et en plus, tu dois répondre à tout le monde. Non, mais...
Ouais, non, c'est clair. Surtout après, entre guillemets, une explosion de joie, le fait de, justement d'être championne du monde. Et après, t'as tout qui te tape dans la tronche, tu vois. Et c'est là que tu te dis, en fait, c'était pas que du positif, tu vois.
Non.
Et en plus, il y a autre chose. C'est que... Tout ça, c'est des choses que ne voient pas les gens de ton entourage.
Exactement.
Ils voient que le côté bah, championne du monde. Mm. Du coup, ils sont en mode, mais ça, c'est génial, est-ce que tu es en train de vivre et tout, c'est fou.
Je peux pas te plaindre.
Et toi, t'es au fond du trou parce que...
Ouais.
Est-ce que t'es harcelé de plein de choses, quoi.
C'est pour ça que c'est incroyable d'être deux. Je pense que si on avait été tout seul, tu vois, Margot, dans les super victoires et dans les moments plus durs... On sait exactement ce qu'on vit. Quand on a eu notre premier prêt, franchement, on pleurait, tu vois, on était comme des dingues. Parce qu'on comprend. Et même les personnes de ta famille, même s'ils peuvent être contents, mais c'est pas pareil. Tu vis pas la même chose.
Bien sûr.
Être deux, franchement, c'est génial. Tu partages une vraie aventure entrepreneuriale, tu vois.
Ouais. Bah, t'es clairement dans la même galère, hein.
Ouais, mais à fond.
Aussi bien pour les réussites que pour les échecs. Et c'est clair que... Tu visualises vraiment tous les à côté qu'on ne voit pas et qui ne sont pas visibles pour les gens qui ne sont pas dedans.
Complètement. Même si parfois, on ne réagit pas de la même manière parce que du coup, tu vois, soit je suis ultra up, soit ultra down. Mais au moins, tu peux en parler à quelqu'un. Et c'est vrai que même mes parents, à ce moment-là, ben, je pense qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais enfin, qu'est-ce que tu nous as encore fait, quoi? Mes parents, ils sont fatigués de moi. Non, mais enfin, en fait, je pense que maintenant, ils s'attendent à tout.
Ouais.
Tu vois, je suis capable de te prendre un... Ce dernier, j'étais à Singapour, j'ai pris mon billet en 24 heures. Hein. C'était plié. Hein. Je pense que là, ils se disent, de toute façon, elle est en roue libre. On va la laisser, quoi.
Les miens sont un peu dans le même état d'esprit. Au départ, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Et bah, après, ils se sont dit, bon, on laisse faire ses trucs de son côté. C'est cool.
Il gère.
Et puis, ils se débrouillent, quoi.
Ouais.
Mais ouais, je suis assez aligné là-dessus. On a évidemment beaucoup parlé de ton aventure. On a moins parlé du produit. Alors, on sait, pour les gens qui écoutent le podcast, que ce sont des confitures de légumes, mais pas que, made in France, que vous êtes champion du monde. Pour l'instant, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en termes de goût, en termes de saveur sur ces confitures?
Bah, la best-seller, patate douce vanille, très très bonne. Gustativement, elle ressemble un petit peu à la confiture de Mirabelle, tu vois, ou de coin, très sucrée mais sympa. Elles sont beaucoup beaucoup moins sucrées que des confitures traditionnelles. Déjà, ça, c'est hyper important. Poivron grain de moutarde, tu la manges avec une petite tartine de fromage de chèvre. Vraiment, on les a créées pour les planches de fromage. Il faut la voir comme la confiture de figue.
Okay.
Avec le foie gras, dans des burgers, même encore ce matin, je reçois un message, dans des pâtes, tu vois, poivron, graines de moutarde un peu en sauce. Elles sont sucrées, donc pour les personnes qui aiment le sucré salé. Oignon curry, on avait aussi aubergine cannelle, un peu plus gastronomique aussi. Depuis le début, on a envie de travailler avec des chefs, des fromagers. Mmh. Pareil, au début, ça donne la crédibilité aussi au championnat du monde. Je pense que ça a fermé pas mal de bouches parce qu'au début, tout le monde pense que voilà, c'est de la com, c'est un concept, c'est une start-up, mais si c'est champion du monde, ça peut être dégueulasse.
Ouais.
Tu vois.
Exactement. Après, ils goûtent et après, ils disent « Ah, ok
». Mais souvent, c'est ça. Quand on rencontre, par exemple, des chefs, on parle, il y a des a priori, parce qu'en plus, on est deux femmes, je veux pas voilà, aller dans le girl power, mais si, voilà. Et du coup, il y a beaucoup d'a priori. Et après, quand le chef goûte, switch d'un coup. Il y a une différence énorme. Ah bah, c'est super bon, en fait. Donc, tu as trois ingrédients, soit le légume, l'épice, enfin, ouais, le légume ou le fruit, l'épice et le sucre. Entre 60 et 80%, tout est bio aussi. Ça qu'on ne met pas assez en avant, mais si déjà on crée un produit, ben, on le fait clean à fond. Donc, c'est bio, c'est français. Même les pots, les bocaux sont français. Donc, c'est au plus clean, quoi.
C'est tout l'intérêt d'un business de produits, parce qu'en fait, les gens, à partir du moment où ils goûtent et que le produit est excellent, bah, en fait, il n'y a pas trop de doute à avoir.
Ils rachètent.
Pas du tout, ce qui n'a rien à voir avec des startups de produits digitaux ou de services, ce genre de choses.
Complètement.
Là, entre guillemets, vous avez juste l'action de faire goûter.
Oui.
Et ça peut convaincre instantanément.
Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un vrai aspect dégustation. Le fait de créer un produit de niche, alors ça a des avantages parce que du coup, on est clairement les seuls. Alors là, tu vois, mais on crée un marché. Et l'inconvénient, c'est vraiment que il faut goûter, il faut faire goûter parce que déjà, les gens pensent que c'est salé. Tu vois, confiture de légumes, tu penses salé. Donc, ils disent les confitures salées. Non, c'est bien sucré. Donc, les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'avant le championnat du monde, acheter en ligne, c'était aussi un peu un problème. C'est compliqué d'acheter un produit, tu sais même pas quel goût ça a, en ligne. Donc, c'est pour ça que ça a aidé, ça a donné de la crédibilité. Mais il y a aussi des inconvénients. Au début, tu as envie de faire que des produits de niche. Et en faisant fraises, poivrons, abricots, donc des mélanges fruits-légumes, là, on commence aussi à faire des confitures 100% fruits. Parce que au bout d'un moment, il faut aussi arriver à faire du volume. Notre confiture fruits rouges, noix, noisettes, qui est quand même bien plus classique, mais elle est ultra qualitative et elle est ultra bonne. Donc, les gens la réachètent beaucoup plus qu'une confiture de poivron qui sera plus exceptionnelle sur les apéros, tu vois, entre amis. Mais au bout d'un moment, tu as envie toujours de créer un produit niche, particulier, te différencier. Ouais, mais au bout d'un moment, il faut aller un peu plus dans le mass market parce que sinon tu fais pas assez de volume. Et sur un pot à 7,90, tu vois.
Exactement.
C'est pas comme si je vendais un avion.
Oui, c'est voilà. Clair. Ou un canapé à 300 000 euros.
Un canapé à 300 000 euros, exactement, c'est ça. Ouais, 300 000 euros, faut que j'en vende. Bah, il faut que j'en vende 50 000.
Ouais, c'est,
voilà.
C'est pas mal. pour conclure un peu sur cette partie sur Pauline, c'est quoi un peu la fameuse question des objectifs futurs? C'est quoi tes objectifs futurs, à part tout casser, évidemment, dans ce game?
Bah, je pense que là, on est en février 2024. Je pense qu'on a eu vraiment les moments de test. On a testé notre marché. On sait exactement où aller. On fait beaucoup d'e-commerce. On va commencer les ads, là, tu vois, dans quelques jours. Et donc, une partie commerce, une partie aussi distribution, fromagerie, épicerie fine, boutique cadeau. Et en fait, je pense que maintenant, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut juste qu'on mette des efforts et qu'on mette des moyens sur ce qu'on sait faire.
Bien sûr.
Tu vois, on connaît nos clients, on sait ce qu'il faut faire. Là, la première année, du coup, les 16 premiers mois, on a clôturé à 145 000 euros à deux. Mmh. Et là, cette année, j'aimerais faire 300 000 euros. Donc, je pense que maintenant, on sait ce qu'il faut faire. On commence à avoir des agents co aussi, donc se développer. Pas forcément recruter à part, tu vois, des stagiaires. On a essayé, hein. Je pense qu'on n'est pas vraiment fait pour être manager. On préfère bosser avec des freelances qui sont ultra, ultra compétents. On bosse notamment avec Rhodes, l'agence de pub pour ça. Mmh. On bosse avec des créas et tout ça. Mais bosser avec des freelances, ça nous va bien. Et en plus, on reste ultra autonome. Donc, je pense vraiment mettre, tu vois, les efforts.
Ouais, c'est vraiment le côté flexible aussi de tout ça, quoi.
Ouais, on peut bosser où on veut et puis tu vois, on bouge vraiment beaucoup. Ouais. Donc moi, j'ai envie de développer Pauline. On a eu aussi des demandes à Dubaï, au Canada, en Amérique du Nord.
C'est clair que le potentiel, il n'est pas que français, il est international.
Et je pense même que...
Il y a peut-être des pays où le potentiel est beaucoup plus
complètement
instantané que la France.
Oui, et puis à l'étranger, le produit français. Enfin, tu vois, le côté champion du monde, c'est quelque chose maintenant qu'on aura tout le temps. Toujours. C'est un produit français champion du monde à l'étranger. Enfin, c'est impossible que ça ne fonctionne pas.
On voit ça aux Américains. Tu l'appelles la confiture.
Tu sais combien ils revendent le pot $22. Hein.
Ouais, ah, mais ça m'étonne pas.
Mais voilà, ils adorent. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas rentrer d'investisseurs pour le moment. Parce que...
Pour l'instant, vous n'avez pas d'intérêt particulier.
On est rentable dès la première année.
Ouais. Trop cool. Bah, bravo déjà pour ces premiers résultats, c'est top. Et je pense que la suite sera d'autant plus belle. J'espère. Ça se trouve, tu vises 300, mais tu auras peut-être 400, 500, enfin, tu vois.
J'espère.
Il y a toujours un côté aléatoire dans ce genre d'aventure. Donc, trop cool. On va pouvoir passer à la partie bilan de cette aventure, même si finalement, c'est encore assez récent. Cette partie bilan, il y a deux petites questions, tu les connais. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure, même si j'imagine que c'est après cette période de début 2023 où tu as connu un creux. Mm. Est-ce que c'est à ce moment-là où vraiment tu t'es senti un peu au fond du fond?
Ouais,
après, il y a eu septembre aussi, après le championnat du monde.
Ouais, je pense que le moment le plus dur, parce que du coup, donc j'étais longtemps à Paris, et en fait, fin 2022, je suis retournée du coup en Alsace, vivre chez ma mère, clairement, parce que avec Pauline, on n'avait pas de salaire, voilà. Et je pense que c'est ça. En fait, tu quittes tout, tu quittes même tes potes à Paris, tu reviens dans ton... T'as l'impression de faire un énorme retour en arrière. En plus, t'es très, très difficile, tu commences à te différencier en termes de mindset par rapport à tes autres potes de master qui signent des CDI sur Paris, mais tu vois, qui ont une vie, enfin, ils attendent juste le vendredi soir de se la coller. Et... Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur la même longueur. En fait, on n'a plus la même vie. J'en ai gardé encore plein, mais que je vois, tu vois, une fois de temps en temps, ça me nourrit pas. Ça me nourrit plus. J'ai l'impression que je perds mon temps. Et je pense que du coup, ce truc-là de repartir, du coup, t'as l'impression que tout le monde te dit « Mais attends, tu vas faire tes confitures. » Enfin, t'as un vrai retour en arrière, tu vois. Ce côté un peu, tu vois, prestige, même auprès de la famille. Tu passes de Paris à bosser chez Hermès, à faire un master d'école de commerce. Tu reviens en Alsace et tu fais des confitures. Et toi, t'essaies de rassurer les gens alors que toi-même, t'es pas rassuré. Mmh. En mode, t'inquiète pas. Je prépare une dinguerie le jour où ça sort.
Ça fait partie du plan.
Ouais, mais je pense que psychologiquement, et c'est pour ça que je suis convaincue que tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que honnêtement, toutes les semaines, tu doutes vraiment. Tu refais tout ton cercle. Maintenant, évidemment, je rencontre beaucoup plus d'entrepreneurs et je m'entoure finalement que d'entrepreneurs et des gens, peut-être pas que, mais des sportifs aussi qui ont le même mindset que moi. Mais ce switch-là, il est... Je pense que tu l'as eu aussi, il est hard.
Je suis très convaincu avec ce que tu as dit sur le fait que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et qu'il n'y a pas un apprentissage pour devenir entrepreneur, entre guillemets. Je pense qu'il y a des traits de personnalité qui sont au fond de toi et qui font que potentiellement tu vas devenir un bon ou un mauvais entrepreneur et que tu es potentiellement fait pour ça.
Je pense.
Ça peut paraître un peu con de dire ça d'un point de vue extérieur. Mais j'en suis convaincu et de par les gens que j'ai pu rencontrer, etc. C'est marrant parce que c'est un sujet sur lequel j'ai débattu avec quelqu'un il y a quelques mois,
ouais,
qui me disait que Messi, n'importe qui peut entreprendre, etc. N'importe qui peut entreprendre, effectivement, se lancer, etc. Mais si on parle de vision long terme et entrepreneur en termes d'état d'esprit, je pense que c'est pas fait pour tout le monde.
Non, parce que tout le monde n'a pas envie de travailler sur soi. Ouais. Si tu travailles pas sur toi, tu vas stagner. C'est pas plus compliqué que ça. Si tu vois, j'ai l'impression en quelques années, sur plein de sujets, j'ai tout déconstruit et là je reconstruis. Mais si tu prends jamais le temps de tout déconstruire, et quand tu déconstruis tout, on prend plein la tronche, ouais, parce que tu remets tout en question. Mais si tu fais pas ça, t'avances plus. Mais du coup, quand tu fais ça, t'as un énorme gap avec les personnes qui l'ont jamais fait. Mais tu te rends compte aussi qu'il y a très très peu de gens qui font ce travail-là.
Ouais, exactement.
Tu vois.
Et en fait, t'es ton propre produit, dans le sens où tu t'évolues aussi en corrigeant certaines choses, etc.
Complètement.
Mais t'es en constante évolution et en constant apprentissage aussi.
Et... c'est ça qui est cool.
Ouais, c'est ça qui est...
Sinon, j'ai dit encore la dernière fois avec Margot, je dis franchement, si c'était parfait, qu'est-ce que ça serait chiant.
Ouais.
Tu vois, j'adore le matin, j'ouvre mon ordi, allez, quelle merde j'ai encore.
Ouais, exactement, aujourd'hui. Ça fait partie du job
et
je pense qu'au fond de nous, on kiffe aussi ce genre de jeu.
Je pense, j'aime tellement pas l'ennui, je préfère avoir 10 merdes dans ma journée que de rien vivre.
Ouais, je suis d'accord.
Tu vois, mais c'est un côté un peu bizarre. Quand même.
C'est un peu maso, mais, mais on jugera pas.
Voilà, on est entre nous, c'est bon.
Exactement. La deuxième question, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement pour toi de cette aventure? Bon, très probablement.
Pas... ouais, mais il faut que je trouve autre chose.
Bah, pas forcément, hein, franchement. Champion du monde, on peut difficilement faire mieux quand même. Si on peut, il y a plein de façons de faire mieux. Mais
peut-être une. Bah, tu vois, c'est marrant parce que je reparle encore avec Michel Augustin. Je pense que c'est aussi toutes les petites victoires de. Je veux quelque chose, je me donne les moyens, au pire ça marche pas et ça se passe. Mais tu vois, c'est comme cette interview. Je l'ai mis et je me mets toujours des défis quand j'ai... Bon, du coup, j'ai 25 ans, mais mon année de 25 ans, je m'avais fait 25 choses à faire avant 25 ans. Et pour moi, il faut juste que tu dises ce que tu as envie de faire, t'y crois, tu travailles dans ce sens-là et ça marche. Et c'est pas plus compliqué que ça, tu vois?
Ouais, non, c'est clair, je pense que ça fait partie de l'état d'esprit, tu vois. Je suis très aussi dans ce mood de liste, même sur mon app note, genre j'ai des milliards de notes. Genre, je note tout. Effectivement, je mets des objectifs, des choses que j'ai envie de réaliser, etc. Et c'est clair que je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive à les réaliser par la suite.
C'est sûr.
Donc je suis assez aligné.
L'attraction, loi de l'attraction,
ouais, c'est ça.
T'y crois un peu?
Je pense que j'y crois. J'aime pas le terme parce qu'il a été trop exploité,
ouais.
Tu vois, sur les réseaux, etc.
Ouais.
Je pense qu'au fond de moi, j'y crois. Je pense que ça s'est révélé vrai à de nombreuses reprises, encore très récemment.
Ouais, j'y crois à 100%. Ouais. Je suis sûre que tout est une question d'énergie. Et je suis sûre que j'avais pas du tout la même énergie. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est tellement fait pour moi que quand tu es aligné avec ce que tu fais, forcément, tu as une belle énergie, tu rayonnes. Avant, quand tu n'es pas bien, quand tu fais des choses où tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas. Tu peux pas rayonner, tu peux pas briller, en fait.
T'es très clairement dans l'obscurité et la plus grande crainte, c'est justement de rester dans cette obscurité, de pas réussir à en sortir et c'est aussi pour ça qu'on entreprend, je pense.
Complètement.
T'as parlé de Michel Augustin, je peux pas ne pas sauter sur ce sujet. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, tu as fait un post LinkedIn.
J'ai résolu tous mes problèmes avec LinkedIn.
C'est franchement bien ce réseau.
Ouais.
Et en fait, tu as fait une publication dans laquelle tu disais que tu voulais rencontrer Michel. De Michel et Augustin.
Ouais, exactement.
Donc, ils sont très clairement les refs de l'agroalimentaire en France. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais en études, donc de 2014 à 2019, le nombre d'études de cas que j'ai eu sur Michel Augustin, j'en ai mangé et remangé à tous les râteliers. Et donc, du coup, tu fais ce post LinkedIn et il s'avère que
Augustin,
tu arrives.
Ouais. Mais je poste le post LinkedIn, c'était un matin, 8h. Déjà, je reçois 10 minutes après un contact qui m'envoie le numéro. Toute la journée, hein, j'ai eu, je pense, au moins 15 fois, soit le mail, soit le numéro. Donc, waouh, trop cool. Enfin, merci les réseaux. Et Augustin répond, bravo pour ton aventure.
Augustin, MP pas avec Michel, joie. Du coup, je me suis trompée.
Oui, Augustin, okay. Du coup, répond MP avec joie, etc. Et quelques jours après, j'ai 30 minutes avec lui. J'ai aussi fait livrer des confitures pour le remercier. Et c'était vraiment, c'est dans ma bucket list, mais vraiment pour le truc de, tu vois, tu veux quelque chose, t'as juste à c'est demander pour recevoir. Tu demandes et potentiellement tu peux recevoir. Et ouais, c'est iconique et en plus, il est adorable. Il a vraiment... il a adoré en plus le projet. Et ça se voit que c'était sincère. Il a dit ça, je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, franchement, ce que vous avez fait avec Pauline, c'est remarquable.
Trop bien.
Quand il m'a dit ça, je te jure, tu sais, parce que quand les gens me disent « Oh, c'est super ce que tu fais et tout », ça fait toujours plaisir. Mais quand c'est Augustin, de Michel Augustin, qui te dit « Ce que vous avez fait, c'est remarquable », je te jure que t'as les poils, t'as les larmes, tu te dis « Ah !»
C'est ouf.
Enfin, tu vois, donc il m'a donné des super conseils et il est trop chaud, quoi.
Ouais, donc trop cool. C'est une opportunité encore que t'as su créer, en fait.
Que tu provoques. Ouais. Si j'avais jamais rien fait, j'aurais jamais eu. Hein.
Exactement. Mmh. Donc trop cool. On va pouvoir passer du coup à la partie sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec quelques petites questions. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure, outre Margot et Augustin, notamment?
L'aventure de Pauline ou...
L'aventure de Pauline.
Ah bah oui, si, complètement. Steve Rich de Fort Wenger, les pains d'épices en Alsace, je sais pas si tu connais. Bah, ils ont aussi une boutique aux Champs-Élysées d'ailleurs.
Okay.
C'est une grosse entreprise en Alsace. Et en fait, on a rejoint Réseau Entreprendre Alsace. Et quand tu rejoins le réseau, t'es associé à un mentor.
Trop bien.
Et en plus, Steve, c'est un peu un ami de la famille, etc. Il est dirigeant de Fort Wenger. Et tous les mois, on a un appel avec lui. Il nous aide énormément. C'est lui aussi, grâce à lui, qu'on a pu faire le marché de Noël de Colmar. Il nous donne son avis, ses meilleurs tips. Franchement, il est génial. Enfin, il gère une boîte à des millions et tu vois, une heure par mois, il passe avec nous. Il adore l'entrepreneuriat, il challenge nos idées. Franchement, il a donné un coup de boost et il connaît nos problématiques, tu vois, de prix, de marge, de positionnement. Steve, je le remercie tout le temps parce qu'il est top.
C'est hyper important d'avoir des mentors et des gens qui ont déjà potentiellement vécu tes problématiques actuelles et qui vont te permettre, en effectivement, un call d'une heure ou en ayant des petits rendez-vous, etc., de te faire passer des steps, mais de manière tellement plus rapide. Donc, pour passer à la question d'après, c'est quoi le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre?
Alors, je vais peut-être pas dire la liberté parce que t'es pas libre, tu vois. Il y en a beaucoup qui disent oui, quand t'entreprends, t'es libre, pas du tout. Enfin, je veux dire, t'as des clients, t'as une pression de dingue, t'es jamais en vacances. Tu le fais pas pour moins bosser ou... je pourrais pas te dire ce qui est important parce que je pourrais pas faire autre chose. Donc, en fait, c'est soit ça, soit je fais rien. Non, mais je sais pas. Je pense que c'est tellement évident que j'entreprenne. C'est tellement dans mon ADN. Puis, en ayant des parents entrepreneurs aussi, tu vois. La créativité. Comme on disait avant, quand les gens nous disent « Non, mais là, t'es trop forte en com. » Là, on a sorti une gamme astro. Non, mais tu sais que cette décision, ça s'est passé en 10 minutes parce que on a bu un café avec Margot. Je dis, attends, je veux faire une édition limitée. Tous les mois, on pourrait pas faire un truc par rapport au signe astrologique. C'est un peu tendance. Comme ça, en plus, ça nous permet de faire du contenu sur TikTok. On touche un peu aussi une autre cible, tu vois, plus jeune, donc des confitures un petit peu moins chères et tout, avec un concept sympa. Et du coup, tous les mois, on sort une confiture en fonction du signe du mois. Donc là, on a sorti Verseau et là, Poisson, donc poire, topinambour, fève de tonka. Et en fait, sur chaque pot, il y a une petite pastille dorée, comme les cartes astro que t'achètes
trop
en bureau
bien.
De tabac, tu grattes la pastille et tu gagnes un truc. T'as des scorpions, il va falloir attendre. Et tu vois,
comment
cette
ça, y a
idée
pas
bientôt. En fait, chaque mois, on le sort le 20 du mois, quoi. Et tu vois, cette idée qu'on dit « Ah, les filles, trop fort !» En fait, c'était juste l'expression d'une idée. Bien sûr, j'y ai pensé pour vendre des confitures, mais c'était plus parce que ça m'éclate, quoi. Tu vois, c'est... Je sais pas... Être hyper créatif. En plus, Margot, elle me freine pas dans mes élans. Elle sait très bien que tous les deux jours, je vais arriver avec une nouvelle idée, un nouveau truc. Elle me calme, elle organise les idées. Moi, je pars dans tous les sens. Et ça, c'est peut-être que c'est ça le plus important alors, tu vois. De laisser libre cours à son imagination. Tu testes des trucs, parfois ça marche, ça marche pas. C'est pas grave, c'est l'éclate, quoi. On s'éclate.
Ouais,
tous les jours, on s'éclate.
Je suis très aligné avec ça. Il y a une punch que j'aime bien dans un film qui est sorti sur Netflix l'année dernière qui s'appelle Cash, avec Raphaël Quenard, que j'adore. et à cette question, il répond le panache. Sur le fait, tu vois, pour moi, c'est relié à l'audace, au fait de...
Complètement.
D'oser, de concrétiser justement des choses et de pas se mettre de limites et de barrières mentales, de pas se dire c'est pas possible.
Le culot, mais ça vient avec la confiance en soi. Et tu vois, je pense à ça parce que c'est arrivé la semaine dernière, on était au salon de l'agriculture et Margot, elle voit Poppy, c'est une TikTokeuse qu'on suit qui a plus de 4 millions d'abonnés. Et elle me dit, Marion, il y a Poppy qui est là. Moi, je réfléchis pas, je fonce, je
la plaque au sol.
En plus, elle est alsacienne. Okay. Donc, je dis, ah, Poppy, on est aussi alsacienne, parce qu'on est très chauvin. Ça fait super longtemps que je veux te faire goûter des confitures de légumes, on a un concept trop cool. Ça vient de Paulette et Jacqueline, sa grand-mère s'appelle Paulette. Enfin, tu vois.
Trop de connexions.
Elle vient, elle filmait pour YouTube. J'espère qu'on sera dans la vidéo YouTube, mais tu vois, ça part de. Mais tu réfléchis pas. Elle me dit, il y a Poppy, je cours.
Ouais, je suis... Non, mais c'est clair. C'est... À un moment donné, si tu le fais pas, personne ne va le faire à ta place. Donc,
Complètement. Et c'est pas parce qu'on vient, tu vois, d'un milieu un peu privilégié, j'aurais pu aussi rester... dans mon milieu, j'aurais très bien vécu, il n'y a aucun souci. Et tu vois, parfois, tu n'as pas non plus besoin d'avoir des histoires non plus de ouf, de tu as tout construit de A à Z, c'est merveilleux ceux qui le font. Mais j'ai aussi un peu envie de donner le message de c'est pas parce que... Enfin, tu peux avoir une vie banale, normale, française, et tu peux avoir de grandes ambitions et de faire des grandes choses. J'ai jamais voulu être la confiturière du village. Pour moi, Pauline, c'est... Non, mais tu vois, c'est le confiturier de demain. Et c'est très bien pour... Enfin, voilà, chacun a son truc, mais... On a envie de concurrencer toutes les grandes marques de confiture. Hein.
Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure ?
Bien. Franchement, bien. Je pense qu'au début, ça inquiétait quand même. Hein. Surtout mon père. Je suis très, très proche de mon père. C'est vraiment mon meilleur pote. Et je pense qu'au début, ils n'ont pas trop compris. Ils avaient besoin aussi d'attendre et de voir qu'il y ait du chiffre qui rentre. Ils avaient besoin aussi de voir la réaction des gens. C'est pour ça que le marché de Noël en Alsace, à Colmar, c'était très bien. Parce que mon père a beaucoup aidé sur le stand et il a vu la réaction des gens. Il a vu les gens revenir en disant « Non, mais on a acheté des confitures, c'était excellent, c'était génial. » Il voit l'engouement quand on est passé sur Hugal M6, du coup, fin janvier. Enfin, c'était comme dingue, quoi. Ouais. Enfin,
premier fan.
C'est quand il y a du résultat. Premier fan. Mais c'est quand même quand il y a du résultat que ça les rassure. Au début, ils ont dit... Je lui ai dit, mais au début, tu pensais que ça marcherait comme ça ? Il m'a dit, pas du tout, mais je te l'ai pas dit. Donc, ouais. Voilà.
Ok, très clair. On va pouvoir passer à la dernière partie de notre échange avec quelques petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ?
Eh ben, l'équitation. Clairement, je pense que quand tu fais des choses et que tu as toujours un brouhaha dans ta tête, il faut revenir à des choses ultra simples. Quand je vais pas bien, je fais du sport. Je vais courir à fond, je vais faire du cheval, je profite avec mon petit chien, un bon café, un bon petit plat, un bon bouquin, et je suis la plus heureuse du monde. Et dormir. Je pense que boire de l'eau et dormir, tu peux que aller mieux.
Il faut les recharger les batteries à un moment donné.
Et du soleil.
Ouais, je suis assez alignée.
Des choses simples. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui... même qui pensent, parce que je suis plus extravertie et que j'ai bossé dans le luxe, que tu vois, je suis un peu trop dans le
matu, dans le canapé à 300 000 euros, quand ça va pas.
Exactement ça. Alors que, pas du tout.
Ouais.
En soi, vraiment, tu mets... juste, je me promène dans la forêt, je fais une rando, un bon café, je suis la plus heureuse.
Je suis assez d'accord. C'est quoi ton plus grand rêve ?
De vendre des confitures de légumes et des confitures Pauline partout. Avoir des pubs à Times Square. Ouais, franchement, de les vendre partout, d'aller à l'autre bout du monde, dans n'importe quel shop, tu vois, même à Singapour. Et de voir dans une épicerie fine une confiture Pauline, ça, c'est mon plus grand rêve.
Ouais, ce serait stylé. La classe, hein. C'est quoi ta plus grande peur ?
Pas que tout s'arrête, parce que je crois tellement à tout ce qui doit arriver. Doit arriver, tu vois, si c'est pas Pauline, si je dois pas réussir mes aventures entrepreneuriales avec Pauline, ça sera autre chose, forcément autre chose.
Tout ce que t'investis, c'est tu l'investis en toi, tu l'investis.
Complètement. Ma plus grande peur, c'est de m'ennuyer. Hein. Je pense que bah oui.
C'est très relié avec tout ce que t'as dit.
Bah ouais. Je pense que si tu t'ennuies, et là on est encore effectivement au début, mais imaginons dans 5 ans si je m'ennuie, je suis pas du tout fermée à faire autre chose. Parce que je m'ennuie. Je pense que ma priorité numéro une, avant l'argent, le confort, le tout, c'est de faire quelque chose qui m'excite, quoi, qui me fasse ultra vibrer au quotidien. Donc ça fait flipper de s'ennuyer, non ?
Ouais, c'est clair. Je pense que ça rend aigri, même.
Ouais, hein, je pense. Hein.
Est-ce que tu as un livre à me conseiller ?
Bah, du coup, un livre que j'ai lu au mois de janvier de Naval Ravikant, que j'adore, parce que le mindset, j'adore.
Il est chaud, lui. Il est très
chaud. Il est incroyable, hein, en termes de mindset. Et c'est marrant parce que dans le livre, il a dit à un moment donné, devenez champion du monde dans ce que vous faites. Et je l'ai...
C'est déjà fait.
Ouais, j'ai...
Désolé.
Already done.
Au suivant.
Voilà, c'est ça. Mais non, il est très, très bien. Et j'aime bien aussi, il apporte beaucoup de nuances à plein de choses. Tu vois, il n'y a pas les socialistes, les capitalistes d'un côté qui veulent faire de l'argent et les personnes qui subissent de l'autre.
Les gens sont beaucoup plus complexes que ça.
Exactement. Il met beaucoup d'humains, mais à la fois, enfin, non, je trouve très bien.
Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ?
Tu sais que je regarde plus beaucoup de films et de séries. Je pense que mon film préféré, c'est Pearl Harbor, parce que je le trouve absolument magnifique. Mais tu vois, Breaking Bad en série, j'adore, mais honnêtement, j'ai pas un film ou une série.
C'est pas très grave.
En fait, j'ai plus le temps. T'as le temps, toi?
Moi, je prends le temps de le faire.
Plus le temps, ouais.
Parce que c'est des choses que j'aime bien, tu vois, consommer. Alors, typiquement, il y a une série que j'ai extrêmement kiffé l'année dernière qui s'appelle We Crashed, sur l'histoire de WeWork.
Ah, wow.
Avec Jared Leto.
Okay.
Qui joue Adam Newman, qui est le fondateur de WeWork, un mec complètement fou.
Ouais.
Et Jared Leto, et même le cast entier est absolument incroyable. Et du coup, bon, c'est forcément très relié à mes centres d'intérêt, etc. Mais pour le coup, la série est dingue. C'est une seule saison de 8 épisodes, je crois, ou 7-8, donc ça se fait assez vite. Et okay. Pour le coup, c'est assez dingue.
C'est vraiment
dans ce qu'il arrive à retransmettre, ouais, je sais pas si ça se dit, mais sur l'aventure et l'état d'esprit, de l'impact de l'état d'esprit d'un entrepreneur sur son aventure.
Ok, eh ben ça, tu vois, si tu me le vends comme ça, j'ai envie de regarder.
Franchement,
mais de moi-même, j'avoue, j'ai la flemme de chercher.
Moi, je t'avoue que ça fait partie de mes intérêts, donc
Oui. Oui.
Ça se trouve, je ferai des podcasts sur le cinéma bientôt, je sais pas.
Peut-être un jour.
Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée?
Écoute, non, t'es très fort, hein. Franchement, dans tout ce que t'as dit. Non, mais tout ce que t'as dit, tu m'as demandé, tu vois, ce que je faisais pour aller mieux, mes défaites, mon plus grand rêve. C'est assez compliqué. Et toi, c'est quoi ton plus grand rêve?
Ouah, attention, t'as pas le droit.
Je retourne ton interview.
Je pense que ça évolue. Je pense que le rêve long terme, c'est d'être le plus libre possible en termes d'action, donc avoir les moyens de faire un peu ce que j'ai envie de faire, quoi. Mm-hmm. Je relie mon rêve, je pense, à une destination aussi. J'ai habité 6 mois à Lisbonne en 2021, et je sais que je suis très relié à cette ville de près ou de loin, et que je finirai par y vivre.
Ouais.
Donc un de mes rêves, c'est d'être à Lisbonne, potentiellement gérer des business, des activités.
Mm-hmm.
Relié de près ou de loin, tu vois, mais sans intérêt. Donc, c'est quelque chose d'assez global. Okay. C'est pas précis en mode faire, je sais pas, 10 millions d'écoutes avec Serial, tu vois, ça, je m'en fous.
Ouais, en termes de chiffres. Ouais.
Mais même en termes de chiffres, en fait, je sais que tout ça sera connecté. Donc.
De toute façon, t'es tellement aligné avec ce que tu fais, ça va forcément arriver. Parfois, ça prend plus de temps. C'est aussi pour ça que tu en as pas d'investisseur. On aurait très bien pu choisir la solution de facilité, de se dire, bon, bah, on nous a proposé déjà beaucoup d'argent. Et en plus, dès que tu passes sur BFM ou la télé, on vient direct à toi.
Ouais,
on fait beaucoup de rendez-vous. Tu prends plus de temps, mais au moins, t'es tranquille.
Exactement.
Et cette tranquillité d'esprit n'a pas de prix.
C'est ça. Pour avoir connu des aventures start-up,
oui.
D'être dans des écosystèmes d'aventures start-up avec des investisseurs,
oui.
Particulièrement relous, non, jamais.
Enfin, en même temps, le rôle d'un investisseur, et c'est clair, c'est de faire des sous. Donc,
ouais.
D'un côté, tu ne peux même pas leur en vouloir. C'est juste bien que tu fais entrer le loup dans la bergerie. Mmh.
Après, il y en a des très bons, hein, mais on ne va pas épiloguer sur le sujet. On fera un épisode sur cette thématique. Je passe à la question reverse. Du coup, tu l'as un peu pris le crédit de question, mais je peux t'en redonner un. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Tu prends le rôle de host pendant une question. Voilà. Et pas ta plus grande peur, parce que j'y répondrai pas.
C'est quoi ton plat préféré?
Waouh, je dirais... Non, c'est une question facile. Franchement, c'est très compliqué. Si je vais dire le bacalhau à Brás, c'est un plat portugais qui est incroyable, très simple. C'est des... je vais le présenter, les gens vont se dire, ça a l'air bizarre. C'est des petits morceaux de bacalhau, donc de la morue. Il y aura une photo avec des petites lamelles de pommes de terre en mode frites, avec des œufs, des oignons, de l'ail, je crois.
C'est healthy, ça.
Tout ça mélangé, pas du tout. C'est pas du tout healthy, pas du tout. Et ça, c'est des petits. Quand je vais au Portugal, j'aime bien.
C'est ton plaisir.
Ouais, exactement. Et aller tester ceux de plein de restos différents.
Tu les notes
pour pouvoir les juger.
Tu vas faire un épisode les meilleurs de Lisbonne. Et à Paris, t'en retrouves ou pas?
Alors à Paris, effectivement, j'ai testé plusieurs restaurants portugais qui sont pas trop mal. Si, alors j'en ai trouvé un plutôt bien qui s'appelle Saudade d'ailleurs, voilà, très belle adresse.
Tu veux ouvrir un resto parce que t'en as pas trouvé à Paris, du coup?
Alors si j'ouvre un resto, je l'ouvrirai pas à Paris. Mais ouais, exactement. Mais c'est clair que je pense que je suis lié de près ou de loin à la food un jour ou l'autre, tu vois. Je pense que je ferai un truc. Ouais, je pense, ouais. Pas des confitures, t'inquiète.
Des confitures.
Mais plutôt bah, ouais, un lieu physique, tu vois, genre un café ou
oui.
Un café-restaurant, tu vois.
Bah, il n'y a pas encore très longtemps, tu vois, pour Café Kitsune, par exemple, oui. Je trouve ça absolument génial. Ils en ont partout ouais. Au Japon. Oui. C'est le fait de créer un univers, un concept. Lifestyle, très lifestyle. Exactement. Et je suis convaincue aussi, parce que tu as plein d'industries qui font beaucoup de cash et qui ne sont pas lifestyle. Nous, on est même avec Pauline sur un produit lifestyle. Je suis sûre que tu peux faire du cash et du sexy.
Ouais, exactement.
Je suis sûre de ça.
C'est clair.
Mais il y a plein de gens qui, tu vois, même au début, non, mais franchement, vous faites des confitures. Comme la cosmétique, vous n'allez pas faire du cash. C'est pas vrai. Je suis sûre que c'est pas vrai.
Les gens veulent des concepts originaux et des trucs sexy, quoi.
Et des bons, du bon bien sûr. Et du beau.
Voilà, exactement. C'est clair. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ?
J'adorerais que tu puisses interviewer Valérie Messica.
Oui,
on a déjà reçu. Des bijoux. Ouais. C'est vrai ?
Je crois que c'était Dominique Busseau qui m'en avait parlé de Forbes.
J'avoue que... Alors, je trouve pas d'interview sur elle, etc. Il y a aussi... je crois que ça s'appelle Nathalie de Caudalie. Mais elle, il y a plus de... Il y a plus d'interviews sur elle, mais Valérie Messica, franchement, en disant ce qu'elle a fait, c'est fou. C'est complètement fou. Et puis, c'est vraiment de la qualité pour le coup. C'est du bon et du beau. Et je l'aime en termes de femme. Je trouve que c'est vraiment une représentation. Tu vois, j'aurais aimé, quand j'étais petite, pouvoir me dire, cette femme, c'est la femme que j'ai envie de devenir. Ouais. Et j'adorerais que tu l'interviewes. Et je pense qu'il y a plein de choses à creuser en plus.
Challenge accepted.
Ouais.
D'ici 12 mois, yes. Elle sera assise
oh là là,
à ta
si
place.
Vraiment, c'est top.
Carrément, c'est, pour le coup, effectivement, c'est une femme qui est très inspirante, qui a monté un truc gigantesque, genre stratosphérique.
Ouais.
Et en le faisant, effectivement, pas de n'importe quelle des manières, mais en le faisant bien.
Oui.
Et c'est clair qu'il n'y a pas assez de contenu avec cette personne.
Non.
Donc, très clair. Il me reste une petite question. C'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ?
C'est une personne qui a une vision et tellement d'idées. Plein d'idées qui ne se limitent pas, qui a envie de créer des choses. Je pense que ça, c'est un peu la base, quoi. Je pense. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas être entrepreneur, déjà si on n'a pas d'idées, mais même si on ne se réinvente pas, si on ne va pas au bout des choses, si on ne crée pas des choses, c'est la création de choses. C'est parce que tu aimes créer, tu as envie d'apporter quelque chose. On part souvent du principe qu'il faut forcément répondre à un problème pour entreprendre. Je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, tu peux créer des alternatives comme nous. Mais au début, c'est un peu ça même, tu vois, le côté un peu école de commerce. Pour entreprendre, tu dois répondre à encore un prof qui n'a jamais entrepris de sa vie.
Insupportable.
Mais c'est fou, hein. Bref, donc trouver des alternatives, créer des concepts, ça, je pense que c'est la base, quoi.
Mmh. Ouais, il y a mille façons d'entreprendre et il n'y en a pas qu'une. Effectivement, t'es pas obligé d'aller chercher la problématique de... Martine, qui teste des trucs et après tu verras si ça fonctionne
complètement.
Ou pas,
après, il faut que ton marché soit suffisamment grand. C'est aussi pour ça que quand tu crées un marché comme les confitures de légumes, tu dois aller sur des trucs un peu plus mainstream. Mais quand tu as un produit cool, bon, que les gens réachètent sur un marché qui est grand, ça peut que marcher.
Exactement, c'est clair. Bah, ce sont les mots de la fin.
Ouais.
J'espère que ça t'a plu, Marion.
Trop chouette. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, j'ai adoré ce moment.
Bah, avec plaisir, c'était très cool. J'ai bien kiffé. Si toi aussi, tu as apprécié cet épisode, que ce soit en vidéo ou en audio, écoute, n'hésite pas à aller regarder ce que fait Pauline sur leur site internet, commander des petites confitures.
Et m'envoyer un petit message aussi.
Exactement, ça c'est très très précieux.
Oui.
D'envoyer un petit message justement à Marion pour lui dire que ce qu'elle fait c'est incroyable et lui donner de la force aussi pour les mois qui arrivent, tout simplement.
Merci.
Merci beaucoup, Marion.
Merci.
Salut. Salut, c'est François de Serial Entrepreneur. J'ai une annonce spéciale à vous faire. Serial Entrepreneur s'associe à IKEA pour les pros pour vous faire gagner un relooking de vos locaux. Quand on est entrepreneur, il y a une étape qui est symbolique et très souvent importante. C'est celle d'aménager ses premiers locaux. Avec Serial, on a eu les clés de notre premier bureau à Rennes en 2022 et il y a quelques semaines, on a ouvert un nouveau bureau à Paris. IKEA m'a contacté il y a quelques jours pour mettre en avant leur offre et leur concours dédié aux professionnels. Et quand c'est une super offre qui concerne les entrepreneurs, impossible pour moi de dire non. Pour tenter de gagner un relooking de vos locaux professionnels d'une valeur jusqu'à 15 000 euros, c'est gratuit et c'est très simple. Vous devez adhérer au programme de fidélité de IKEA pour les pros, remplir le formulaire d'inscription au concours, le lien est à retrouver en description de l'épisode, et avoir une surface max de 100 mètres carrés à aménager. Peu importe votre secteur ou votre localisation en France, tout ça en ayant un projet dans un délai de moins de 3 mois, oui, ça va vite. A noter que vous ne devez pas avoir des locaux qui nécessitent des travaux de rénovation, ni intégrer un projet de cuisine professionnelle. Ce concours est assez exceptionnel et réservé aux professionnels. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent être intéressés par cette offre. Elle est disponible en description. Il s'agit évidemment d'une collaboration commerciale. Merci à IKEA pour leur confiance.